Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Économie, culture, politique, environnement. Votre premier contact avec l'actualité, déterminé, enraciné, ancré. Philippe Vincent Foisy.
Mercredi 29 mars, bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle journée. Journée où on va parler bien sûr de ce budget fédéral dans le rouge, avec des milliards dépensés, le déficit qui continue de se creuser, aucun retour prévu à l'équilibre budgétaire, on a remis ça au calendrier grec. Bien sûr, on va en parler, on dit budget made in USA, on n'avait pas le choix d'investir beaucoup d'argent pour contrer, s'arrimer à cette stratégie américaine, mais aussi avec le NPD, avec le projet d'assurance dentaire qui va coûter cher deux fois plus que ce qui était prévu. Sinon, aujourd'hui, grosse journée pour parler santé. C'est le plan Dubé qui va être déposé, ce projet de loi pour créer l'agence santé qu'on nous a dit à chaque fois qu'on en parle. Ça va être plus gros que prévu. Est-ce que ça va réussir à ébranler les fameuses colonnes du temple? Est-ce qu'on s'attaque et on se dirige vers une troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est ce dont on a besoin? Est-ce qu'on est dans le prolongement de la réforme Barrette? Est-ce qu'on est une nouvelle réforme? Il y a quand même pas mal de questions qui se posent. On va avoir toutes les réponses, en tout cas au moins les débuts de réponses aujourd'hui. Sinon, dans le journal, un peu partout, on rend hommage en une à cette policière qui a été tuée lundi à Louisville, tuée en service. Là, ce qu'on apprend, mais c'est que celui qui l'a tué, le suspect qui est décédé, représentait un risque pour la sécurité publique déjà depuis un bon moment. Il était par contre, et malgré tout, en liberté. Alors qu'à 5 reprises, il a été reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, de voies de fait armées, de menaces de mort. Et dans cette situation-là, clairement, la question, c'est pourquoi il était encore libre. Si il y avait des troubles de santé mentale liés au cannabis, aux amphétamines, un trouble schizoaffectif, et que la commission sur la maladie mentale disait que l'accusé pose un risque, comment se fait-il qu'il était toujours libre? Pas de suivi. Alors qu'on craignait une rechute, encore une fois, là-dedans. Sincèrement, ce bout-là, en lisant les journaux ce matin, je ne le comprends pas. Et oui, il y a de l'aide en santé mentale, on l'a dit, il n'y en a vraiment pas assez. Mais là, c'est textuellement un problème de santé mentale, reconnu. Le danger est même reconnu. Et le suivi se faisait pas. C'est un appel de routine qui a complètement dégénéré. Policière de 20 ans, mère de famille. Le gars prend un couteau, la poignarde, succombe à ses blessures. Un autre de ses collègues qui est blessé, qui la remercie en disant « tu m'as sauvé la vie ». Mais qui aujourd'hui, dans le fond, cette policière-là, n'est plus là. Cette mère-là n'est plus là, Maureen Burrow. Et on sentait cette émotion. Yann Lafrenière, ancien policier, ministre du gouvernement, en mail de presse, avait très peu de mots, mais tout était dans ses silences, dans son émotion de perdre encore un policier, perdre encore quelqu'un en service. Ce matin, on revient d'ailleurs sur les policiers, les 5 autres qui ont été tués depuis 2005. Ça fait partie du risque, là, c'est ce qu'ils disent, mais en même temps, à chaque fois, tu te dis, ouais, ce risque-là, il est grand, puis on l'oublie parfois, hein, quand on traite avec les policiers. Je pense que c'était François Bonnardel hier qui disait, si vous en voyez un aujourd'hui, remerciez le don. Parce qu'en bout de ligne, ils sont là aussi, mais principalement pour nous protéger. Sinon, on va parler de politique, bien sûr, parce que oui, à Québec, on va parler de santé, mais on risque encore une fois de parler de troisième lien. Ça a été le projet fantôme, selon l'opposition, depuis quelques jours, parce qu'on n'en avait pas vraiment parlé dans le budget. Et là, François Legault maintient qu'il veut le faire. D'accord, mais comment exactement? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Ça, c'est quand même une pas pire question quand on regarde l'état des routes au Québec. 56 % des infrastructures du réseau public sont en bon état. 56 % seulement. Ça veut dire que 44 % ne le sont pas. Et que les sommes qui vont être requises très bientôt pour pouvoir répondre à tous les besoins des infrastructures routières, ça n'a aucun bon sens. Et on regarde ce que ça va nous coûter, puis à quel point on n'est pas là, là. Et que ça va nous coûter plus cher aussi. Faut quand même pas se mettre la tête dans le sable. Ça va coûter beaucoup plus cher au cours des prochaines années à cause, là, il y a l'inflation en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre et on bâtit des nouveaux projets. Ce qui nous ramène au troisième lien. Est-ce que le troisième lien est encore un bon projet à mener de l'avant? Veux pas, faut quand même se poser ces questions-là. Surtout quand on regarde du côté de Radio-Canada ce matin, qu'il y a quand même eu 17 000 véhicules de moins qui ont emprunté chaque jour les ponts Pierre-Laporte et le pont de Québec en janvier cette année par rapport à 2019. Donc, il y a moins de monde en ce moment qui emprunte les ponts qu'avant la pandémie. Quand on nous parle d'avoir des études sur l'impact du télétravail, ça fait partie de ça, là. De se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tunnel, de deux tubes avec des véhicules qui passent, si déjà la congestion routière a baissé depuis celle qu'on connaissait avant la pandémie à cause ou grâce au télétravail? Est-ce que ça justifie cet investissement de plusieurs milliards de dollars? Alors que on sait qu'il y a des milliers de milliards qui vont être nécessaires pendant les prochaines années pour remettre juste le niveau, le réseau à niveau. Il va falloir aussi qu'on fasse des choix. Ça, le risque des gouvernements, et les gouvernements ont besoin d'être élus, fait qu'ils font des choix aussi politiques, jusqu'à un moment donné, c'est pas sexy de retaper une route, de s'assurer que le pont ne tombe pas, sauf quand il tombe, puis là, ça devient un gros scandale politique, fait qu'il va falloir y penser aussi, est-ce qu'il y a moyen de refaire encore ses devoirs, puis d'avoir un autre projet encore moins ambitieux? Est-ce que c'est là-dedans qu'on vers ça qu'on s'en va? Est-ce qu'on va peut-être le laisser mourir de sa belle mort? En tout cas, on va en parler à Québec. Sinon, non. Disons, on est dans la période des impôts. C'est des questions. Si on a vos affaires, répondu à pas mal de questions du public cette semaine. Vous pouvez aller écouter l'épisode sur le site de Cube.radio. Le site de Cube Radio, ça va vous aider si vous avez des questions sur les subventions, les crédits d'impôt. Il y a pas mal de questions jeunes, moins jeunes, le CELIAP et toutes ces affaires-là. Sauf que, je pense qu'il y a un bon dossier sur le site de TVA Nouvelles qui nous vient de Gatineau, qui nous fait réaliser que si vous êtes travailleur autonome, puis même si vous êtes jeune, puis vous pensez que l'impôt, c'est pour les autres, faites attention. Il y a deux sœurs jumelles qui sont sur OnlyFans, ce site-là de contenu, on va dire érotique, qui ont des problèmes avec le fisc en ce moment. Comme s'ils n'ont pas déclaré, ou ils ont fait une déclaration de revenus à la fin de l'année, et ont oublié de mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer les impôts. Puis là, ce qu'on nous dit, c'est que Revenu Québec, en fait, l'Agence du Revenu du Canada a saisi leur compte bancaire pour les vider et menace même de saisir leur compte OnlyFans. Tu dis, OK, wow. Ça doit être des méchants gros montants, là. Parce que pour qu'on saisisse le compte bancaire, normalement, on fait pas ça du jour au lendemain. On fait ça parce qu'il y a eu des appels, on fait ça parce qu'il y a eu des téléphones, on fait ça parce qu'il y a eu des lettres, on fait ça parce que le montant aussi est énorme puis il y a des craintes que l'argent s'en aille. Et moi, j'ai déjà eu des enjeux avec les impôts, là, c'est compliqué quand t'es pigiste, pis là, les factures, ça monte, ça marchait pas, pis c'était comme 3000 $. C'était beaucoup, là, c'est beaucoup, parce que c'était compliqué. Mais on n'a jamais été menacé qu'on ferme un compte bancaire, là. Alors, imaginez-vous, là. Puis après ça, l'influenceuse en question dit, j'aurais pas dû continuer les travaux sur ma maison, j'aurais dû rembourser mes impôts, ben oui. Mais on parle quand même de gros montants. Si tu peux utiliser cet argent-là pour faire des travaux sur ta maison, on parle quand même de plusieurs milliers, sinon pas de dizaines de milliers de dollars. Mais là, tu l'as pas mis de côté. C'est quand même un rappel, un bon pensez bien que si vous faites ce genre d'affaires-là, vous allez devoir payer de l'impôt. Il y a personne qui y échappe, là. Même les influenceurs, vous n'y échapperez pas. L'impôt va venir vous rattraper. Puis c'est difficile de faire pitié dans ces dossiers-là. Quand on a une belle maison de luxe, alors qu'il y a du monde qui a de la misère à payer leur épicerie, un petit peu difficile de faire pitié. Parler d'Airbnb aussi aujourd'hui, 23 000 annonces sur 29 000 au Québec qui seraient illégales. parce qu'elles n'ont pas le fameux numéro de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Fameux numéro là, que le gouvernement dit « Oh, c'est important, c'est essentiel de l'avoir », mais que la plateforme n'exigeait pas puis que personne, dans le fond, faisait de suivi. Montréal, ça serait 90% qui serait illégal. À Laval, 95%. Puis ça, c'est juste avec ce numéro-là. On n'est pas dans... Est-ce qu'on est dans une zone illégale? Est-ce qu'on est dans une zone où c'est interdit? On est juste dans ce que l'application pourrait faire, si on la forçait à faire, et ce qu'elle va faire normalement, c'est ce que Airbnb nous a dit. Est-ce qu'elle va le suivre? C'est quand même pas mal d'annonces. Ça veut dire pas mal d'argent de moins pour la plateforme. Tant politiquement, c'est difficile en ce moment pour Airbnb. Puis sinon, dernier dossier du bordel informatique, là. Ça a l'air que c'est compliqué de faire la transition numérique au gouvernement. Je pense qu'il y a personne qui est surpris ce matin de voir ça. Vous avez promis 100 millions d'économies par année en faisant cette transition de tous les organismes vers les nuages d'Amazon et de Microsoft. Mais là, ce matin, on déplore du côté du ministère d'Éric Kerr de la misère avec la gestion du changement. Est-ce que c'est vraiment un problème de gestion de changement ou un problème de crainte avec ce qu'on a vu, par exemple, à la SAQ, ou c'est un problème à l'intérieur même du ministère de la cybersécurité et du numérique, là? On a entendu quand même pas mal à l'intérieur de ce ministère-là, comme quoi, changement de culture, on veut pas le faire. Un changement, on veut rester avec cette culture du fonctionnariat. Ceux et celles qui avaient des capacités, des qualifications en matière de cybersécurité ont été tassés, se sont fait montrer un petit bureau puis arrêter de travailler parce que c'est pas ça qu'on veut. Puis il y avait une lettre ouverte hier dans la presse assez intéressante sur des entreprises québécoises qui disent « Ouais, mais nous, on pourrait en faire des serveurs. On pourrait avoir nos propres serveurs. Puis ça ferait surtout en sorte que, un, ce serait plus sécuritaire, puis deux, l'argent resterait au Québec. » Comment ça se fait qu'on y pense pas à ça? C'est un peu la question qu'Éric Kerr devrait se poser. Tant qu'à retarder cette transition vers les nuages d'Amazon, d'une Microsoft, des compagnies américaines, ben, pensons peut-être à créer nos propres nuages ici. Ça nous ferait du bien. Puis, ben, il pourrait pelleter des nuages.